Radio Starbird.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
On a tous quelque chose en août 68 sur Inter aujourd'hui toute la semaine et dans un jour dans le monde, chaque jour, nous irons chercher un 68 dans le monde qui a résonné avec le nôtre, en même temps que le nôtre, un peu avant, un peu après, que le nôtre a parfois fait monter ou qui s'en est démarqué. 68 a roulé ses pavés sur tous les continents, c'est ce qu'on verra ce soir pour nous. C'est au Mexique que ça se passe, pas le Mexique des Jeux Olympiques, non, justement, juste avant, le 2 octobre 1968, sur une place de Mexico, un massacre d'étudiants oubliés, volontairement nié par le Mexique pendant des décennies. Et au-delà même de Mexico, nous essaierons d'explorer toute cette Amérique latine pour laquelle 68 a peut-être préparé le chemin des dictatures des années 70. Et on y viendra donc dans un instant. Sinon, dans Un jour dans le monde, on ne perd pas les bonnes habitudes. 18h50, Trump, saison 2, c'est Grégory Phillips avec un procureur spécial de l'affaire russe qui est sur le point d'être viré par Trump. Et on verra si tout ça a quel type d'incidence. 18h55, Jean-Marc Four met le monde à l'envers et se méfie du balai aujourd'hui entre Erdogan d'un côté et Bachar de l'autre. Allez, le monde est vaste, on l'a un peu rétréci à l'Amérique latine ce soir, et bienvenue.
Fabienne Saint-Fès, Un jour dans le monde.
À Mexico, la rentrée est agitée, la situation se tend, et maintenant les manifestations d'étudiants tournent à l'émeute.
La police, appuyée par l'armée, donne en ce moment l'assaut au bâtiment de l'Institut Polytechnique. Les forces de l'ordre ont été accueillies à coups de revolver, alors elles ont répondu avec des fusils automatiques. Deux étudiants ont été tués, deux autres sont blessés. Aucun bilan définitif ne peut encore être établi, mais on sait qu'il y a des victimes du côté des forces de l'ordre. Dans toute la partie nord de Mexico, des barricades sont dressées avec des autobus, et pour empêcher les policiers de progresser, les manifestants déversent de l'essence dans les rues et y mettent le feu.
Allez, les infos du 3 octobre 1968, assez surréaliste quand on songe à ce qui s'est réellement passé la veille, le 2 octobre 68, et on va y venir, on va vous expliquer dans le détail cet événement qui est, je le disais tout à l'heure, très peu connu. Ce qu'on retient de 1968 au Mexique, à Mexico, avant tout, ce sont les JO, et bien justement, ça se passe 10 jours plus tôt. Bonsoir Claude Kiegeman.
Bonsoir.
Vous étiez journaliste au Monde à cette époque et vous avez couvert ces événements mexicains. Vous en avez fait un livre d'ailleurs l'année suivante et vous allez rafraîchir un peu nos mémoires. Bonsoir Angélica Müller. Vous
Bonsoir.
Êtes historienne, vous enseignez l'histoire à l'Université de Rio. Vous êtes professeur invité à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Claude Kiegeman, d'abord je voudrais qu'on se remette un peu dans le contexte de ce mois d'octobre 1968. Vous êtes arrivé depuis un bout de temps en fait.
Je suis arrivée, oui, à la fin mai. Donc je suis arrivée de Paris, donc j'ai vu le début et des événements de Paris, ce qui me permettra de faire la comparaison avec les événements de Mexico. Donc si vous voulez, quand je suis arrivée au mois de juin, la situation était relativement calme et les choses ont commencé à partir de juillet et la tension a monté peu à peu, parce que ça a commencé, il y avait souvent des bagarres entre les écoles, ça a commencé par une bagarre entre écoles et la police est intervenue. Et c'est ça, je crois, qui a mis le feu aux poudres, parce que c'est d'abord anticonstitutionnel de rentrer dans des écoles et surtout à l'université. Donc, ça a fait monter le ton du côté des étudiants, parce qu'il y a eu aussitôt une répression qui a gagné du terrain. Et cette répression s'est accentuée à mesure que le mouvement s'amplifiait en juillet et en août. Cette répression était aussi le souci du gouvernement en vue de ces Jeux Olympiques, surtout parce que le slogan de l'époque, c'était « Todo es posible et en la paz », tout est possible dans la paix.
Et c'est vrai que, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle vous arrivez au départ, ce qui vous intéresse vous, c'est de parler du Mexique avant les Jeux Olympiques. En fait, la vraie raison de votre couverture, c'est celle-là d'abord.
Oui, c'est celle-là et aussi je m'occupais de l'Amérique latine, donc j'avais le projet de faire un travail sur le Mexique et en plus de suivre donc l'actualité mexicaine. Mais évidemment, avec les Jeux Olympiques et surtout avec ces événements de 68 qui ont surgi, et qui ont surpris, et qui, je dois le dire, le caractère des jeux, de ces événements du Mexique sont totalement différents de ceux de Paris, parce que c'est pas ludique, si vous voulez.
Alors, on va y venir, voilà. Effectivement, à la teneur que ça a pu avoir. Je voudrais une précision, Angélica Müller, juste avant, on parlait effectivement avec Claude à l'instant des Jeux Olympiques. Il faut rappeler que Mexico 68, ce sont les premiers Jeux dans le tiers-monde, comme on disait encore à l'époque. Oh, la première fois qu'un pays dit pauvre a des Jeux, donc, était sous le regard du monde entier, en fait. Est-ce qu'ils vont savoir faire? Et ça aussi, ça comptait beaucoup dans l'esprit des autorités, j'imagine.
Sans doute, c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus connu les cas mexicains que les cas du reste des pays de l'Amérique latine, qui c'était des événements sanglants et violents aussi, comme les cas du Brésil, mais aussi de l'Argentine, du Chili, d'Uruguay, par exemple.
Est-ce qu'il compte sur ces jeux, le président mexicain qui s'appelait Díaz Ordaz à l'époque, est-ce qu'il compte sur ces jeux pour asseoir son pouvoir, justement? Il a quelque chose à montrer à ce moment-là, ce garçon.
Et c'était exactement pour ça. Et du coup, vient tous les mouvements pour soulever. Et on va dire, les présidents comptaient avec les jeux, justement pour avoir, entre guillemets, un rafraîchissement de l'air autoritaire qui s'est déclenché au pays.
Est-ce qu'on peut rappeler, Claude Kiechmann, peut-être, ce gouvernement, ce parti révolutionnaire institutionnel qui est au pouvoir à ce moment-là, qui est arrivé il y a longtemps, hein, qui est arrivé en 1910, à la Révolution,
à la suite de la Révolution. Il est devenu le prix à la fin des années 20. Et c'est au départ un parti révolutionnaire, mais un parti révolutionnaire qui va s'enquister, si je puis dire, et devenir de plus en plus autoritaire et qui tient le pays, c'est-à-dire ils tiennent le pays non seulement sur le plan politique, mais sur le plan syndical. Tout est le prix, si vous voulez. Mm-hmm. Et on ne peut faire à peu près carrière que dans le prix, à partir du prix. Il y a peu d'autres. Enfin, il y a un autre parti qui est le PAN.
Le parti révolutionnaire.
Le parti révolutionnaire institutionnel.
Ouais.
L'institution, que ça. Ce nom indique bien la signification du projet. Mais avec le temps, si vous voulez, ce prix est devenu de plus en plus autocratique. Et justement, l'un des soucis de ce mouvement de mai va être de faire respecter la Constitution. Et ça, je crois que c'est très important de le dire, si vous voulez. Parce que ce régime est devenu de plus en plus autoritaire. Il y a un double aspect dans le Mexique à cette époque. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ouverture vers l'Amérique latine. Et justement, il y a les rapports avec Cuba qui sont bons. Mais en même temps, le pouvoir tient à garder le pouvoir et surtout à, vis-à-vis même des États-Unis, l'ami le plus proche ou l'ennemi le plus...
Le meilleur ennemi.
De conserver un équilibre. Donc, je pense que, si vous voulez, là, il y a une confrontation entre le respect de la Constitution que réclament les étudiants, non seulement les étudiants, mais je pense la classe moyenne, certaines parties, enfin, une partie importante de la population, disons. Alors, le mouvement est conduit par les étudiants, mais il représente plus que le monde étudiant.
Mais alors, attendez, vous avez fait un petit rapport avec les États-Unis, parce qu'on devra forcément y venir. On lit aujourd'hui que tout ce gouvernement était à la solde de la CIA, en gros. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fait partie de la légende de cette histoire ou pas?
Je ne pense pas que tout le gouvernement était là. Je pense que la CIA était très présente, comme elle sait l'être, si vous voulez.
Alors, parce que ce que ça veut dire aussi,
c'est... que tout le gouvernement n'en entend pas.
Ce que ça veut dire aussi, c'est pétri d'une espèce de crainte qui était distillée par les Américains, peut-être d'une arrivée communiste, enfin peut-être qu'il y avait ça aussi qu'on leur mettait aussi dans la tête et qui venait peut-être de l'Amérique du Nord et des Américains, non?
Oui, mais c'est ambigu au Mexique, pardon.
Allez-y Claude, et Angélica, vous pourrez répondre dans une seconde, bien sûr.
Je voulais dire que étant donné, si vous voulez, les rapports avec Cuba, les rapports aussi avec l'Espagne républicaine, il y a du côté mexicain une ambiguïté toujours, c'est-à-dire on est un peu à gauche, on est révolutionnaire, mais en même temps, on est conservateur et on tient le pouvoir.
Angélica Müller, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, c'est sans doute, après la révolution cubaine en 59, les yeux américains, ils étaient tous vers l'Amérique latine pour essayer d'éviter. Donc, il y avait pas qu'il y ait des plans de la CIA pour surveillance, mais il y avait des plans politiques du gouvernement Kennedy qui s'est passé pour toute l'Amérique pour faire des différents accords commerciaux, éducationnels et tout ça, pour essayer d'éviter les plus grands pires qui c'était les communismes.
Donc comment on regarde le Mexique vis-à-vis des États-Unis à ce moment-là ? C'est le grand pays, Angelica, qui doit rester stable coûte que coûte aux yeux des Américains ?
Bah, c'est les proches, hein.
Donc,
si on a la petite île là qui bascule, pardon, tous les continents, oui, c'est ça que je pense que c'est intéressant. Donc, pour déjà travailler les côtés guérilla, et voilà, il y a dans cette 68 globale la question de l'internationalisme révolutionnaire. Et donc, dans les guerres des libérations nationales, on a bien sûr, ici, dans les cas, en France, c'est grand, la question de l'Algérie. Mais la question du Vietnam, elle était très, très, très forte. Et Cuba était là. Cuba était le grand exemple pour faire l'Amérique latine, entre guillemets, en bombe.
Et d'ailleurs, le mouvement du 26 juillet est pas loin. On l'a célébré, Claude, à Mexico, le 26
oui,
juillet.
Oui, Cuba. Justement. D'ailleurs, il y a une énorme manifestation le 26 juillet. Je crois qu'il y a 300 000 ou 500 000 personnes. Enfin, c'est énorme. Mais pendant tout ce mois de juillet et août, c'est vrai que les manifestations deviennent de plus en plus importantes, avec la participation, d'ailleurs, de quelques groupes d'ouvriers, de gens qui viennent...
Ça commence assez vite à sortir des simples campus, en fait.
Ah oui, mais c'est aussi la population de la ville. Je pense que, si vous voulez, ça touche la classe moyenne, ce mouvement. Alors, c'est pas une revendication de liberté sexuelle ou ça du tout. C'est de respect de la Constitution, ce qui est très que l'armée ne puisse pas rentrer dans les universités, que on puisse parler plus librement, dire un certain nombre de choses qu'on ne peut dans les journaux, dans la presse. Enfin, c'est plus comme ça. Et puis. Je crois que la manière dont le gouvernement, à la fois le ministère de l'Intérieur avec Echeverría...
Qui a été ensuite
président, et qui est un homme de force, si vous voulez, les ministères de force, diraient les Russes. Mais ça augmente la tension et augmente justement ce mouvement qui, au départ, je pense, était relativement... pacifique, calme, mais devant la contrainte, devant la répression, les arrestations, les morts, etc., jusqu'à ce Tlatelolco, qui est la chose la plus invraisemblable qui soit.
Et ça se passe donc le 2 octobre. Je vous ai ramené à ce moment-là, à ce moment du 2 octobre, grâce à Emmanuel Sils, qui est à Mexico, et qui nous ramène ceci. Écoutez.
Félix Hernández Gamundi montre un livre de photographie du 2 octobre 1968. Un livre de souvenirs douloureux pour celui qui était alors l'un des leaders du mouvement étudiant. Lors du meeting de Tlatelolco, il était parmi les orateurs qui s'adressaient à la foule depuis le balcon du troisième étage d'un immeuble.
Quand va commencer à parler, l'orateur commence la répression.
Le premier d'entre nous prend la parole, et c'est à ce moment-là que la répression se déclenche. Des feux de Bengale apparaissent dans le ciel, et tout d'un coup, c'est le signal pour que l'armée intervienne. C'est alors que je vois des gens tomber sur place. Je suis stupéfait. Recroquevillé sur le balcon, j'entends les balles en bas sur la place. Je ne vois plus rien. Mais j'entends les rafales de mitraillettes, les cris et encore des coups de feu. Tout à coup, la fusillade prend fin. Les cris se taisent et on entend le bruit des tanks qui entrent sur la place. Puis, un bruit d'arrosage. La place est nettoyée et ensuite, c'est le silence.
Et le silence sur les événements de Tlatelolco s'éternise des semaines, des mois. Félix et des centaines d'étudiants sont emprisonnés. Avec les autres dirigeants du mouvement, il passera plus de 2 ans derrière les barreaux, accusé de délits imaginaires. Pour les familles des innombrables victimes, tout espoir de justice est asphyxié.
L'impunité
commence avec l'oubli, dit Daniel Molina. Cet homme d'aujourd'hui, 76 ans, n'était pas à Tlatelolco ce jour-là, mais le nom de son beau-frère, Guillermo Rivera Torres, mort à 15 ans sous les balles des militaires, figure sur le monument érigé sur la place en mémoire aux victimes. Daniel raconte le calvaire enduré par la famille pour récupérer le corps de l'adolescent.
Les mesas de concreto, de granito, étaient apiladas.
À la police, j'ai vu des tables en béton sur lesquelles plusieurs cadavres étaient entassés, entre 8 et 10 corps empilés. Les policiers étaient sous et ils jouaient à la pelote par-dessus les cadavres. Sur le certificat de décès de mon beau-frère, les policiers ont indiqué qu'il était mort de cause naturelle, d'une maladie gastrique. J'ai demandé qu'ils mentionnent les blessures par balles, mais un des policiers s'est fâché. Il m'a dit qu'ils allaient écrire ce qu'ils voulaient et que si je n'étais pas d'accord, ils ne nous rendraient pas le corps.
Daniel se souvient que des militaires surveillaient les funérailles de son beau-frère. Toute velléité de contestation devait être étouffée et le gouvernement censurait les informations sur le 2 octobre. Malgré le soutien de la population aux étudiants, la répression s'est perpétuée de façon plus sélective, visant ceux qui tentaient de réorganiser la rébellion. Il faudra attendre l'année 2001 pour qu'un bureau spécial d'enquête sur les crimes de Tlatelolco soit créé. Par la suite, l'ancien président Luis Echeverría, ministre de l'Intérieur au moment des faits, purgera brièvement une peine en détention domiciliaire, un nombre de victimes encore indéterminé et une quête de justice interminable laisse la blessure de Tlatelolco ouverte, encore aujourd'hui selon Félix Hernández Gamundi. 50 ans plus tard, il tente encore de saisir les raisons d'une aussi brutale répression.
Le gouvernement était inquiet à l'approche des Jeux Olympiques. Il fallait briser définitivement les mobilisations. Et en plus de cela, il voulait lancer un avertissement, montrer que rien n'était permis, que personne ne pouvait sortir du rang. C'est le message envoyé par le gouvernement le 2 octobre. Le mouvement de 1968 a mis à nu ce régime autoritaire. Et par ce fait, il a ouvert de nouveaux espoirs. C'est pour cela que ces événements sont encore très présents dans les mémoires.
Por eso 68 está tan presente.
Très présent dans les mémoires et sur la place des Trois Cultures, même si l'endroit est aujourd'hui paisible. Un ensemble de logements datant des années 60 occupe le site de ce qui était un immense marché à l'époque des Aztèques. Des allées verdoyantes serpentent entre les immeubles rouges et gris. Seuls des petits détails rappellent le massacre des étudiants. Regardez les dalles de la place. Vous voyez, il reste des traces, des impacts de balles, montre Ricardo, un jeune du quartier. Victoria, une étudiante qui habite aussi à Tlatelolco, considère que les jeunes préservent la mémoire de ce qui s'est passé ici. Les manifestations qui se tiennent chaque année sur la place des Trois Cultures en sont la preuve. D'ailleurs, au Mexique, toutes les mobilisations d'étudiants ont le même slogan. El 2 de octubre no se olvida. Le 2 octobre ne s'oublie pas.
Vous avez reconnu des voix, Claude Kegeman, parce que je vous ai vu sourire un moment en écoutant
non,
ce reportage.
Non, j'ai reconnu surtout la situation, ouais. Parce que c'était incroyable. Parce que simplement, à un moment donné, il dit que ça semble avoir duré peu de temps. Ça a été très long, parce que la fusillade a duré une heure. Il y a eu un arrêt, puis elle a repris. Effectivement, il y a eu ces tanks qui sont arrivés. Les gens se jetaient, sautaient un mur de 6 mètres pour se protéger. C'était incroyable, si vous voulez. Moi, j'avais commencé mon papier en écrivant « C'est la guerre ». J'avais jamais vu ça. En plus, il y avait un hélicoptère qui passait dans le ciel. Enfin, plusieurs d'ailleurs, mais enfin, il y en avait un qui venait. Et c'était, il y avait un bruit. Les gens étaient terrorisés, ils n'ont pas compris, si vous voulez, parce que effectivement, il y en avait des manifestations. Et ça avait commencé très calmement. Il y avait des femmes, des enfants dans la foule. C'était un massacre.
Et parce que l'un des interlocuteurs le dit, Angelica Müller. On n'a pas compris, ou finalement si, on a compris, il fallait briser, en fait, il fallait briser tout de suite le mouvement, il ne fallait rien permettre, ce sont les mots employés. Est-ce que ça veut dire réellement que le pouvoir mexicain, à ce moment-là, a peur qu'il se passe quelque chose et qu'il puisse être renversé ? Est-ce que c'était dans l'air, en fait, pour réprimer aussi violemment, il faut avoir très peur aussi.
Ah bah, la violence, elle était faite justement pour ça, non ?
Mais est-ce qu'il y avait un risque réellement à faire tomber ce gouvernement ?
Non, mais c'était surtout pour que les Jeux Olympiques puissent commencer dans le calme. Ça a été le premier. C'était vraiment, je crois, le but. Le gouvernement ne risquait pas d'être renversé parce qu'il n'y avait pas les forces suffisantes, si vous voulez. le prix suivait, il n'y avait pas d'opposition réelle dans le pays. Il y avait un immense mouvement de contestation et d'exigence de respect des lois, en fait, de la Constitution.
Et Claude Kejman, je voudrais vous faire entendre quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Elenia Poniatowska, et qui fait partie de ces gens grâce auxquels on sait ce qui s'est passé sur la place, parce qu'ensuite, ils ont été chercher réellement ce qui s'est passé, aller chercher des témoignages, et Dieu sait que c'était difficile. Et si je voudrais vous la faire écouter, c'est aussi parce qu'elle parle de vous, qu'elle s'en souvient. Écoutez-la.
En 1968, deux amis sont venus chez moi à 9h du soir, 10h, en pleurs et dans un état très, un très mauvais état, me dire il y a une tuerie, on est en train d'assassiner des gens à Tlatelolco. Je venais d'avoir, enfin j'avais eu au mois de juillet un bébé. J'ai choisi un moment, le matin très tôt, entre un allaitement et l'autre, pour aller à Tlatelolco. Et j'étais tout à fait sidérée de voir qu'il y avait des tanks, il y avait des quantités de vitres cassées, il y avait des soldats partout. Il y avait un soldat qui parlait par téléphone et qui disait à sa femme, ah, « S'il te plaît, je veux entendre la voix de mon enfant. Passa-me al niño. Passe-moi l'enfant. Passe-moi l'enfant. Parce que nous allons rester ici sans doute très longtemps. » Et une des choses qui m'a le plus frappée, c'était les trous de balles dans les portes des ascenseurs. J'ai commencé à marcher derrière un parc et là, il y avait des espèces de fossés. Et dans les fossés, il y avait beaucoup de souliers, des souliers à talons de femmes, des souliers de gens qui, en courant, ont perdu leurs souliers. Alors, à partir de ce moment-là, j'étais au Campo Militar numéro 1. On ne m'a pas laissé rentrer et j'ai commencé à interviewer les parents, les étudiants qui n'étaient pas en prison et les gens qui avaient, les jeunes qui avaient participé. Je rappelle qu'il y avait une Française qui, une journaliste française qui travaillait, je ne me souviens pas si c'est dans Le Monde, elle s'appelait Claude Kishman et elle était là et elle était tout à fait indignée et vraiment paralysée d'horreur par l'insensibilité des militaires et comment on traitait les étudiants par terre. Ils étaient trempés, les bras en l'air, comment on les avait dépouillés de leurs vêtements. J'ai vu aussi la journaliste très connue, Oriana Fallaci. Et Oriana aussi était indignée. Elle m'a dit, quand j'étais au Vietnam, correspondante de guerre, j'ai jamais vu de toute ma vie qu'on tire d'en haut sur une multitude.
Voilà, j'ai jamais vu qu'on tire d'en haut sur une multitude. Il y en avait très peu, il faut le rappeler, que Kejman, des gens qui ont pu voir. Elle a pris 3 balles dans le dos d'ailleurs, hein.
Elle a été blessée.
Ce jour-là, elle a été blessée.
Dans la jambe, je crois.
Exactement. Les gens qui ont pu voir, qui ont raconté, vous êtes finalement extrêmement peu nombreux.
Oui, c'est vrai.
En fait.
C'est vrai. Ce que je voulais dire à propos des morts, parce qu'il y a eu 300, 400 morts, ouais. Mais qu'il y a eu beaucoup de gens, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'enterrements, parce que c'était très difficile de retrouver les corps et que la police a empêché, enfin, il y a eu... Et que on racontait que les corps avaient été jetés dans des... jetés dans de la chaux. Et que la police, enfin, et l'armée, parce que c'était l'armée qui avait pris le relais de la police.
Et qu'on n'a toujours pas, effectivement, et le nombre exact, on ne l'a toujours
400,
pas.
Parce que ça a été écrit dans un journal de Mexique, je crois que c'était El Día, qui avait mentionné ce chiffre. Mais peut-être il y en a eu plus, et puis il y en a eu après. Et puis, il y a eu les gens qui ont été envoyés en prison. Moi, j'avais pu aller voir des gens, des leaders de la grève, un dénommé Guevara, d'ailleurs, qui s'appelait, qui n'était pas le même.
Et puis, c'est pas le bon, mais il y en a eu des Guevara à cette période-là.
Escudero, comme ça, ils étaient en prison.
Je pense que c'est très intéressant quand on pense toujours à la question de la mort, mais la mort liée à la violence, qu'elle augmente en puissance énorme qui fait les victimes, en fait, elles se transforment dans des symboles, des martyrs, des héros, hein,
Allez-y, pardon.
Contre la répression. Et ça joue dans un côté mémoriel très intéressant.
Et justement, est-ce que Mexico a été la plaque tectonique de tous les grands mouvements étudiants finalement de ces années-là? Alors, il y en a eu un peu avant, il y en a eu d'autres après. Mais est-ce que la plaque, c'est bien celle-là, en fait?
Ça passe au Mexique en octobre, mais avant ça, on a des événements chauds. Donc, juste pour revenir au cas du Brésil,
par
plus
exemple,
précisément, après 64, le Brésil vit déjà dans une dictature militaire. Donc, ça augmente des puissances et d'autoritarisme. Et il y a plein de manifestations qui se développent avec les mouvements étudiants qui étaient déjà dans l'illégalité, les gouvernements amis tout de suite après les coups d'État. Et c'est justement la mort d'un étudiant lycéen en mars 68.
Edson Luis,
exactement, le déclencheur de tout ça. Il est tellement fort, ça, qui est dans les côtés mémoriels, qu'on peut voir, vraiment, 50 ans après, ça veut dire maintenant, la semaine dernière, c'était assassiné un conseillère municipal de la ville de Rio, Marielle Franco.
Absolument.
Et à ce moment-là, ça a déclenché des manifestations partout dans les pays en montrant les photos de Edson Luis et de Marielle en même temps.
Et c'est dire l'impact que ça a gardé, effectivement. Et surtout, comment ça peut aujourd'hui encore, en fait, mettre les gens dans la rue, puisque c'est exactement ce qui est en train de se passer à Rio avec l'assassinat de cette conseillère municipale.
Mais exactement ça. Et donc, voilà, la mort, elle a vu cette façon, d'une manière tellement tremblante. Et elle ouvre aussi un regard pour la propre société, dans les cas au Brésil, de la classe moyenne, qui commence à arriver dans des manifs qui sont déjà chaque fois en plus violente au Brésil, jusqu'à arriver au qu'on appelle les jeudis et les vendredis sanglants. On a plusieurs morts entre étudiants et quelques ouvriers aussi. Et se puisse voir après ça une grande manifestation qui s'appelait la manifestation des 100 000, qui c'est un des événements plus connus au Brésil, qui c'est un événement qui n'y a pas eu de violence. Il y a eu un ordre pacifique des militaires en disant, voilà, on va vous laisser faire votre manifeste, qui, côté étudiant, était plutôt lié à des revendications étudiants même, parce qu'à ce moment, c'est passé en réforme universitaire, et donc, pour revenir au point que les États-Unis étaient en train de faire des accords aussi. Et là, en continuant, dans les deuxièmes parties, en octobre, il y a un autre jeune lycéen mort à São Paulo. Donc, avait un confront entre universités, une université, l'université de São Paulo, que c'est connu, et un groupe vraiment d'extrême droite qui était dans un fac privé devant l'université de São Paulo. Et dans ces moments-là, il y a une nouvelle mort.
On sent bien, on entend bien ce que vous nous dites, effectivement, comment les mouvements partent et se sont disséminés en fait sur le Brésil. Mais il faut rappeler aussi l'Uruguay, quasiment au même moment. L'Argentine, peu de temps après. Là, on est en 1969, ça participe de la même chose. Est-ce que ces mouvements-là ont renforcé les guérillas dans ces endroits d'Amérique latine et ont donc, d'une certaine façon, préparé le chemin des dictatures futures ou pas? Est-ce que ces mouvements ont préparé ce chemin-là?
Le cas d'Uruguay, c'est vraiment ça. 68, ça veut dire un avant et un après dans les chemins de la dictature pour 73. Donc, c'est aussi, après des manifestations, la mort d'un étudiant, Arce Liber, qui a déclenché aussi plutôt des manifestations plus grave dans les pays. Et voilà, c'était déjà en 66 qu'un gouvernement était élu. Et en décembre de 67, les vice-présidents, parce que l'autre était mort, il a pris des mesures plutôt autoritaires. Et là, ça a déclenché. Et c'est vraiment intéressant qu'après ça, Il a fait plein de mesures, donc il gelait les prix des salaires, il a fait des restrictions des droits humains, et ça a augmenté hop, jusqu'à les coûts en 73. Et les cas de l'Argentine aussi, bah, les Cordoba, c'était dans la ville de Cordoba, parce que c'était en ville ouvrière, industrielle. Il a
Le mouvement s'appelait Cordoba pour les gens qui nous écoutent, parce qu'effectivement, c'était dans cette ville de Cordoba. Ouais.
Voilà. Et en fait, les suffixes aso, en espagnol, ça signifie coup. Mm-hmm. Donc, du coup, Cordoba, un coup délié. Et les cas de l'Argentine, c'est vraiment intéressant parce qu'il lie vraiment les étudiants et les ouvriers.
Ce qui était un peu le cas au Mexique, nous a raconté Claude Tiergeman.
Oui, en fait,
peut-être moins.
Non, très peu, très peu. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques groupes d'ouvriers qui se sont déclarés favorables. Enfin, mais c'était justement, ça a été une recherche, mais ça n'a pas pris du tout. Enfin.
En tout cas, on est content, nous, un jour dans le monde, d'avoir pu raviver ces mémoires-là, raviver ce 68 d'Amérique latine, qui est celui dont on parle probablement le moins, en fait, parce qu'on a oublié ces événements-là et parce que, comme vous nous l'avez très bien raconté toutes les deux, on a aussi beaucoup cherché à faire oublier ces événements-là. Et merci de nous les avoir racontés à nouveau. On y passe toute la semaine en 68. Dans un jour dans le monde, on sera à Prague demain, on ira à Berkeley après-demain, on ira au Biafra aussi. Ce sera jeudi. Voilà, nous y sommes. Merci à tous encore
une fois. Merci à vous. Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, ce sera Trump saison 2 avec Grégory Philips et puis Jean-Marc Four, le monde à l'envers avec les deux meilleurs ennemis du monde, amis du monde, comment on les appelle ces deux-là?
Oui, bonsoir Fabienne. Bonsoir. Pour l'instant, ils sont main dans la main pour taper sur les Kurdes et les populations civiles, mais Assad et Erdogan sont de faux amis, ils ne vont pas tarder à redevenir ennemis.
On en parle tout à l'heure, il sera à 18h55, tout pile, on sort pas tout à fait de 68. Tiens, Born to be Wild, Steppenwolf. Steppenwolf, Born to be Wild, sur France Inter, l'année 68, donc à l'honneur.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Et on ne sait pas ce que Donald Trump faisait en 68, Grégory, mais on sait très bien ce qu'il fait aujourd'hui, puisque vous ne le lâchez pas d'une semelle. Bonsoir, Greg.
Bonsoir, Fabienne, bonsoir à tous.
Un président tout énervé ce lundi, alors.
Ah oui, même depuis ce week-end, car depuis 3 jours, Donald Trump n'a cessé de tweeter contre le procureur spécial Robert Mueller. Vous savez, c'est l'ancien patron du FBI qui a été désigné pour mener de manière indépendante ce qu'on appelle l'enquête russe. Et le dernier tweet de Trump sur le sujet date d'il y a 3 heures à peine, en lettres majuscules, comme souvent, witch hunt, chasse aux sorcières et conflit d'intérêts massifs. À tel point qu'on se demande, Fabienne, si Trump ne va pas chercher à tout simplement virer le procureur spécial, un peu comme Nixon l'avait fait en 73 au moment de l'affaire du Watergate. Et même dans le camp républicain, quelques voix s'élèvent pour dire que ça ne serait pas une très bonne idée. Écoutez, le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, il était hier matin l'invité de CNN.
Comme je l'ai déjà dit, s'il essaye de faire ça, ça sera le début de la fin de sa présidence. Parce que nous sommes une nation qui respecte les lois. Et en ce qui concerne M. Mueller, il va où son enquête le mène. Et il faut qu'il puisse accomplir son travail sans interférence. Beaucoup de républicains pensent comme moi.
Grégory, moi, il y a une chose que je comprends pas. Pourquoi se débarrasser de Mueller maintenant? Il aurait pu faire ça avant, Donald Trump, non?
Oui, vous avez raison, mais Trump a beau clamer qu'il n'y a pas eu de collusion avec Moscou, il devra sans doute s'en expliquer très prochainement. Vous savez que le président a toujours dit qu'il n'avait rien à se reprocher, qu'il était prêt à répondre à toutes les questions de ce procureur spécial. Or, apparemment, les équipes du procureur viennent de transmettre leurs questions à la Maison-Blanche, et c'est peut-être ça qui a provoqué cette montée de colère du président.
Allez, ce sera à suivre évidemment de très très près. L'événement de la semaine aux États-Unis, Grégory, c'est samedi. On en a eu un avant-goût déjà la semaine dernière, mercredi, mais samedi, c'est la grande manifestation organisée à Washington et dans 700 villes du pays pour réclamer plus de contrôle des armes. Ce sont les lycéens de Parkland en Floride qui mènent cette danse, qui sont à l'origine du mouvement Never Again, ça s'appelle. Et vous les avez rencontrés en fin de semaine, un petit extrait de ce que vous avez vu et entendu.
Ouais, et je dois vous dire qu'ils sont assez formidables, ces lycéens de Parkland, et assez formidables la manière dont ils sont en train de faire bouger un peu les lignes sur la question des armes à feu aux États-Unis. Il y a un peu plus d'un mois, 17 morts au lycée Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, et quasi immédiatement, une vingtaine d'élèves, pas plus, commencent à s'organiser, à prendre la parole et à dire que c'est pas possible. Et samedi donc, à leur initiative, on annonce une énorme manifestation ici à Washington, mais aussi dans tout le pays. Écoutez, Léonore Munoz, elle a 17 ans, élève de terminale, et voilà ce qu'elle me confiait il y a quelques jours à Parkland.
Je sais que si on ne fait rien pour que ça change, ça va se reproduire. Et ça, je ne peux pas le supporter. Ça me fait tellement mal de voir que ça m'est arrivé et de savoir que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Alors oui, il va falloir se battre. Ça ne va pas être facile de changer les choses, mais ça serait encore plus difficile de ne rien faire.
Voilà, quant au président Trump qui, en début de mois, semblait décidé à bouger sur cette question des armes, eh bien le plan en préparation à la Maison-Blanche semble, en vérité, Fabienne, assez timide. Pas question pour l'instant de relever l'âge de 18 à 21 ans pour l'acquisition d'une arme à feu. En revanche, l'administration veut armer plus d'enseignants, comme ça se fait déjà dans une dizaine d'États ici aux États-Unis.
Et on y reviendra bien sûr ensemble après cette manifestation de samedi. Donc, Grégory, elle est en plus léger, une histoire de lapin pour finir. Un lapin qui s'appelle Marlon Brando, qui appartient au vice-président des États-Unis, Mike Pence. Vous vivez quand même dans un sacré pays. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le lapin est devenu une sorte de célébrité puisqu'il fait l'objet de deux livres qui sortent en même temps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lapin, Grégory?
Alors, deux livres très différents. Le premier de ces livres, écrit par la vice-première dame, décrit la vie de Marlon Brando, ce lapin, qui est donc l'animal de compagnie du couple Pence. C'est un livre pour enfants. Vous me direz, bon, voilà, pas forcément très intéressant.
Non, c'est...
Le deuxième livre...
J'oserais pas le dire, mais je le pense un peu. Allez-y.
Le deuxième livre, en revanche, est plus croustillant. C'est le présentateur télé John Oliver, qui officie sur HBO, qui a eu l'idée d'écrire un livre parodique sur le lapin qui s'appelle La vraie vie de Marlon Brando. Et parce que Pence a eu notamment... quand il était gouverneur de l'Indiana, des positions contraires aux droits des homosexuels, eh bien, dans le livre de John Oliver, le lapin Marlon Brando est gay. Écoutez Oliver, c'était hier soir dans son émission Last Week Tonight.
Now, there are a few small differences.
Bon, il y a bien quelques petites différences entre ces deux livres. Vous noterez par exemple que notre lapin a un nœud papillon. Et puis l'autre différence, c'est que Marlon Brando tombe amoureux d'un autre lapin, un garçon. Marlon Brando est gay. Mais attention, c'est un vrai livre pour enfants, ce n'est pas un livre pour adultes où on essaierait de dire à Mike Pence d'aller se faire voir. Même si en l'achetant, c'est exactement le message que vous lui enverrez.
Voilà Fabienne, les deux livres sortent aujourd'hui.
Voilà, comme vous dites.
Devinez lequel est en tête des ventes sur Amazon. Et bien évidemment, c'est la parodie dans laquelle Marlon Brando vit une belle histoire d'amour avec le lapin Wesley. Vous me direz Fabienne, lequel de ces deux livres vous souhaitez que je vous fasse
J'allais exactement vous dire ça. Moi, je vais prendre le premier et Jean-Marc Four qui est là a décidé qu'il prendrait celui de Madame Pence parce qu'il est comme ça, Jean-Marc Four, un peu conservateur comme ça sur les bords. Allez, merci beaucoup. Grégory, à bientôt.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
Et Jean-Marc Four qui met le monde à l'envers, comme tous les soirs. Jean-Marc, la guerre en Syrie est entrée dans sa 8e année de conflit, bombardement toujours, et deux fronts avec des populations civiles et des Kurdes qui sont pris en étau. Au nord, ce sont les forces turques qui ont pris le contrôle d'Afrin, c'était ce week-end. On a beaucoup parlé dans Un jour dans le monde, et à Damas, les forces d'Assad sont sur le point de prendre possession du fameux quartier de la Ghouta. Erdogan d'un côté, donc le Turc, et Assad, le Syrien, de l'autre, qui semble former une sorte d'alliance objective aujourd'hui. Mais dans votre monde à l'envers, Jean-Marc, vous vous dites que cette alliance est très, très provisoire.
Ah, c'est vrai que le parallèle était saisissant ce week-end. Assad et Erdogan paradant tous les deux à distance l'un de l'autre. D'un côté, Assad en train de se faire filmer les lunettes de soleil posées sur le nez au milieu de ses soldats dans le quartier de la Ghouta, désormais contrôlé à 75% par son armée. De l'autre, Erdogan profitant d'une cérémonie de commémoration d'une victoire ottomane il y a 103 ans pour annoncer fièrement « Le drapeau turc flotte sur Afrin, repris aux forces kurdes ». Bienvenue en Syrie, mesdames et messieurs. Erdogan au nord, Assad au sud et au milieu des populations civiles, sous les bombes ou sur les routes de l'exil, en particulier les Kurdes. Les deux dirigeants sont effectivement aujourd'hui des alliés objectifs. Et vous savez quoi? Ils ne vont sans doute pas en rester là. Au nord, Erdogan va vouloir pousser son avantage, c'est-à-dire prendre la maîtrise de la totalité de la bande située au sud de la frontière turque côté syrien. Il en contrôle déjà la moitié. Il veut aller plus loin en reprenant les villes de Manbij et Kobané, situées plus à l'est. Et il aurait tort de se priver, franchement, puisqu'il considère les Kurdes comme une menace et que les Occidentaux laissent faire. De l'autre côté, au cœur de la Syrie, Assad, après la Ghouta, s'attaquera sans doute à Idlib, la dernière zone qui lui résiste, une zone où se trouvent des groupes djihadistes, mais plus encore où s'est développé un embryon de pratiques démocratiques. Et soit dit en passant, on aurait presque oublié que la révolution syrienne a commencé comme ça, par une aspiration à la démocratie. Donc, on se résume, Assad et Erdogan se partagent le boulot parce qu'ils ont aujourd'hui un double intérêt commun, réduire la zone d'influence kurde d'un côté et montrer que les Occidentaux, Européens et Américains, n'ont plus aucun pouvoir réel dans le pays.
Sauf que, c'est ce que vous voulez nous dire, ça ne durera pas.
Ça ne peut pas durer. D'abord parce que les alliances ne sont souvent que de circonstances, l'histoire avec un grand H l'a souvent démontré, et l'histoire récente en particulier dans la région en est l'illustration. Deux exemples. Les Occidentaux ont fait alliance avec les Kurdes pour éradiquer le groupe État islamique. Maintenant que c'est à peu près fait, ils laissent tomber les Kurdes. Pardon pour le raccourci, mais c'est à peu près ça. De même, les Turcs ont contribué à bombarder les islamistes de Daesh, mais maintenant ils sont passés à autre chose, se débarrasser des Kurdes. Donc pour chasser les Kurdes d'Afrin, ils s'appuient sur des milices islamistes. Alors la suite c'est quoi? Imaginons qu'Erdogan et Assad parviennent tous les deux à leur fin, l'un à repousser les Kurdes loin de la frontière, l'autre à éradiquer toute forme d'opposition. Dans ce cas, devinez quoi? Les deux hommes se retrouvent face à face. Et là, préparez-vous à ce qu'ils cessent d'être des alliés parce qu'ils se détestent. Erdogan a qualifié Assad de terroriste à plusieurs reprises et surtout, il soutient les frères musulmans, les grands adversaires sunnites d'Assad, Assad qui, lui, est alaouite, autrement dit une branche du chiisme. Pour faire bonne mesure, on peut ajouter de vieux contentieux entre la Turquie et la Syrie sur la province d'Hatay, zone située entre les deux pays sur la Méditerranée, ou sur la maîtrise des ressources en eau potable sur le bassin de l'Euphrate. Bref, pour de vrai, ils ne sont pas copains du tout les deux.
Alors les Occidentaux, nous donc, avons-nous encore un rôle à jouer dans cette affaire?
Pour l'instant, dans la partie d'échecs, les Occidentaux ont perdu, comme si la diplomatie occidentale n'avait pas vu venir les renversements d'alliance après la défaite du groupe État islamique. Aujourd'hui, et franchement c'est un peu pathétique, le Quai d'Orsay semble plus préoccupé de chercher à dissuader les journalistes de se rendre à Afrin ou dans la Ghouta, cacher ces massacres que nous n'avons pas su empêcher. Alors, un rôle à jouer dans le futur? Oui, peut-être malgré tout, précisément parce que la partie d'échecs n'est pas terminée. Et à un moment donné, pardonnez le cynisme, mais c'est ça les relations internationales, il faudra peut-être choisir entre Assad et Erdogan. Il vaut mieux se préparer à cette alternative, sauf à se condamner à ne plus jouer le moindre rôle dans la région et à laisser le tsar Poutine jouer seul les médiateurs. C'est un choix.
Jean-Marc Four et le monde à l'envers. Merci beaucoup. À demain, le 18-20 de France Inter. Continuons, on va rester, dans cette année 68. Et puisque vous nous avez envoyé vos souvenirs de 68, vous viendrez nous les raconter. Et nous, on vous offre les 68 Arts d'Inter. À tout de suite.